Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il va être déclaré bienheureux le 22 avril prochain à Oviedo en Espagne. Et pourtant, c'est un prêtre français, le père Louis-Antoine Ormière, né à Quillan dans l'Aude en 1809. Le père Louis-Antoine Ormière ne fut pas un grand théologien, mais un prêtre de terrain et surtout un éducateur. Une sorte de Don Bosco français. Rencontre. Voilà pour cette émission ce matin, donc à la découverte du père Louis-Antoine Ormière, donc futur bienheureux. Je reçois ce matin, ou plutôt c'est elle qui me reçoive, sœur Marie du Carmel. Vous êtes supérieure donc de la maison mère qui se trouve donc à Montauban, des sœurs de l'Ange Gardien. On présentera ses sœurs. Bonjour.
Bonjour.
Et sœur Jacqueline, donc vous êtes également religieuse dans cette congrégation des sœurs de l'Ange Gardien. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être qu'on peut commencer à expliquer, tout simplement présenter un peu les lieux, puisque pour une fois donc Vivante Église s'est délocalisée. Nous sommes ici en fait donc dans la maison mère près de Montauban. Nous sommes dans une belle bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous décrire en deux mots cette pièce, sœur Marie du Carmel, dans laquelle nous trouvons?
Voilà, ici nous sommes dans le bureau du père Ormière. Et entouré de sa grande bibliothèque, de ses lettres adressées aux sœurs de la congrégation et beaucoup d'objets souvenirs, le prix Dieu, secrétaire, et voilà.
Et nous avons même des reliques, non?
Et c'est même ça, des reliques, oui, pas mal de choses de son temps.
Voilà, donc une belle pièce bien solennelle, voilà. dans une belle bâtisse avec un parc dehors. Alors tout simplement, je vous propose évidemment de commencer cette émission en faisant connaissance avec ce prêtre. Alors vous allez nous raconter son histoire et puis l'histoire providentielle en fait qui accompagnait cet homme. Donc le père Louis-Antoine Ormière, je le disais, donc est né donc à Quillan, ou on dit Quillan, c'est ça? Voilà, dans l'Aude, donc le 14 juillet 1809, donc il y a maintenant deux siècles. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être tout simplement au début, dans quel environnement familial est-il né? À quoi ressemblait sa famille? Voilà, quel était un peu son biotope, comme on dit, sœur ouais. Marie du Carmel.
Les parents de père Ormière, ils étaient des grands chrétiens, des gens simples, mais profondément chrétiens. Aussi bien le père que la maman, d'une manière particulière la maman, qui était même très instruite et qui essayait de donner à ses enfants la foi qu'elle avait reçue, la foi qu'il cultivait au jour les jours.
Et ils étaient de quel milieu socioculturel peut-être?
Milieu simple d'abord, ils étaient à Limoux. À Limoux, où ils avaient ouvert une petite épicerie. Et ensuite, ils sont partis à Quillan. Le papa était barbier. Et plus tard, il a laissé ce métier pour reprendre le commerce.
Voilà. Qu'est-ce qu'on sait de plus, peut-être, de l'enfance du père Louis-Antoine Ormière, en fait, hormis le milieu?
Alors, c'était une famille des 6 enfants, même peut-être plutôt 5, parce que l'un des petits frères est décédé quelques jours après sa naissance. Et un enfant gay, très, très, je dirais, dynamique, très bien conseillé par sa maman, accompagné. Et à l'âge de 8 ans, il est devenu pensionnaire au collège de Limoux. Et puis, à 14 ans, il est rentré au séminaire de Carcassonne.
Voilà, il est rentré au petit séminaire, c'est comme
voilà,
ça qu'on appelait ça.
Voilà, au petit séminaire de Carcassonne.
Est-ce qu'on sait quelque chose aussi de sa vocation? Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait une vocation assez jeune. Est-ce qu'il y a dans ses écrits
oui,
quelque chose
qui
dit?
Oui, tout jeune enfant, sans doute aussi, parce que bien accompagné par le climat de foi qu'il vivait dans la famille, et il s'est senti appelé à devenir prêtre.
Voilà, on a des traces, des écrits, en fait, il raconte la manière dont ça s'est passé, ou est-ce qu'on a des...
Non, là, de son enfance, non, on n'a pas autre chose, non.
D'accord, donc du coup, il rentre au petit séminaire, et puis, assez rapidement, en fait, il est, je sais pas, repéré d'une certaine manière, c'est ça? Ses supérieurs distinguent un esprit de un grand esprit de pédagogue, alors probablement
oui.
Pas au petit séminaire, mais après,
et même
quand il va au séminaire de Carcassonne, c'est ça?
Durant ces années d'études théologiques, et il est lui-même professeur au petit séminaire. Et c'est là où l'on commence à découvrir ses talents de pédagogue,
voilà,
bon éducateur.
D'accord, donc il fait son petit séminaire, il fait son grand séminaire donc à Carcassonne. On y voit donc ses talents de pédagogue, il devient professeur. Est-ce que vous pouvez nous décrire après quand il commence sa vie sacerdotale, où est-ce qu'il exerce ses premières responsabilités sacerdotales?
C'est-à-dire, comme il a déjà senti cet appel, de devenir, il a senti très tôt l'appel à devenir éducateur, dès l'âge de 18 ans, donc en étant encore au séminaire. Alors, en étant prêtre, il a demandé à son évêque de ne pas lui attribuer le service d'une paroisse, mais de le laisser se consacrer à l'éducation des enfants. Il contemplait, je dirais, la situation de l'époque, de tous ces enfants non scolarisés dans les villages.
Continuez.
Aussi a-t-il demandé de pouvoir se former lui-même, et il est parti à Montpellier où il a eu son bac brillamment.
Voilà. Est-ce que vous pouvez décrire du coup quelque chose du contexte? Parce qu'évidemment, on est au début du 19e siècle, on est quelques temps après la Révolution française, et la France est dans un état quand même bien particulier, et religieux et social.
C'est... Justement, s'il y avait déjà peut-être des collèges dans les villes, le monde rural était vraiment non scolarisé. Et le père Ormière s'en est rendu compte que les enfants couraient les rues à ne rien faire, qu'ils avaient besoin donc d'être éduqués et instruit, et il s'est orienté totalement dans cet objectif.
Voilà, donc son évêque accepte en fait sa demande.
Son évêque a accepté sa proposition, et à Quillan même, il a commencé à réaliser son projet avec des éducateurs, mais très vite il a senti que son projet le dépassait et qu'il va le mieux s'adresser à des congrégations pour le réaliser.
D'ailleurs, c'est-à-dire que son projet, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants qui venaient à lui, c'est ça,
ou... Voilà, il y avait beaucoup, les besoins étaient grands, et il n'avait pas de possibilités suffisantes avec les instituteurs qu'il pouvait trouver dans les alentours.
D'accord, donc en tout cas, il faut dire aussi, il faut préciser que c'était des enfants donc de zones rurales, c'est ça, vous l'avez
voilà,
dit.
Voilà, voilà.
Hein, il était particulièrement attentif aux enfants défavorisés, aux plus pauvres.
Voilà.
Est-ce que vous avez
quelques
précisions là-dessus, quelques histoires ou anecdotes qui disent justement cette attention aux plus pauvres?
Cette attention aux plus pauvres, parce qu'ils sentaient bien qu'il n'y avait plus personne qui s'en occupait. Et alors, par exemple, ce qu'on peut dire en étant fondateur au niveau des pauvres, c'est que dans l'école, on recevait des enfants de familles aisées et des enfants pauvres. Et lorsqu'il y a eu un exemple, le jour de la fête Dieu, où tous les enfants accompagnaient la procession pour jeter des fleurs, et les familles aisées ne voulait pas que les enfants pauvres participent à la même procession avec leurs enfants. Et alors le père Ormière a dit « ou tous ou aucun ».
Voilà, donc en tout cas c'était un père qui était évidemment, voilà. enfin comme tout, je veux dire, pour un bienheureux ce n'est pas très surprenant, mais en tout cas c'est presque une condition sine qua non pour être bienheureux ou saint que d'être attentif aux plus petits. Alors donc cette congrégation, cette mission d'éducation se développe, et donc il a l'intuition, alors vous dites qu'en fait il y a eu trois appels dans sa vie, peut-être que vous pouvez rappeler ces trois appels, et là donc vient le temps du troisième appel.
Alors le temps du troisième appel, c'est-à-dire...
Les deux premiers étant donc l'appel à la prêtrise, et puis après son...
L'appel à être éducateur dès l'âge de 18 ans. Et ensuite, bon, comme il a fait appel à des congrégations pour l'aider dans son projet, il a abouti en Bretagne auprès du père Dehé, fondateur de deux congrégations.
C'est-à-dire qu'il a envoyé des courriers un peu partout en France, c'est ça, pour essayer,
voilà,
de voir,
voilà,
essayer d'avoir des réponses, voilà, et avoir du soutien, en fait.
Voilà. Et donc le père Gabriel Dehé, fondateur des congrégations des Sœurs de l'Instruction Chrétienne et des Sœurs et des Frères de l'Instruction Chrétienne également, il a très vite compris son projet et il a essayé de l'aider. Il lui a répondu « Je peux vous envoyer des sœurs, mais non pas des frères ». Et aussitôt, le projet de fonder une école à Quillan a été lancé par la congrégation, avec pas mal de difficultés, mais trois sœurs ont été envoyées dans le Midi, dont sœur Saint-Pascal, qui allait devenir la supérieure de la communauté.
Donc elle est descendue de Bretagne, c'est ça?
Voilà.
Ce qui à l'époque n'était pas rien quand même, elle a traversé toute la France.
Ils sont descendus en diligence avec le fondateur jusqu'à Quillan.
Voilà. Et donc là, est-ce que c'est à ce moment-là donc qui a été créé donc les sœurs de
non,
l'Ange Gardien?
Pas tout de suite, pas tout de suite.
Alors,
elles sont
restées
sœurs de Saint-Gilda pendant encore plusieurs années. L'école,
c'est-à-dire
elles sont arrivées à Quillan. Pardon.
Elles ont fait l'aller-retour, c'est ça en fait? Non, elles sont
non,
descendues
non,
de Bretagne.
Elles sont descendues
d'accord.
De Bretagne directement à Quillan.
Voilà.
Et le 3 décembre 1839, elles sont arrivées à Quillan. et la première école a été ouverte le 1er janvier 1840. Cette école dépendait toujours des Sœurs de Saint-Gilda, mais très vite, des jeunes rentraient dans la communauté du Midi, et les Sœurs de Saint-Gilda qui envoyaient des lettres d'obédience pour les sœurs afin qu'elles puissent enseigner dans les écoles, se sont très vite senties de passer parce qu'elles ne connaissaient pas du tout les nouvelles candidates et aussi ont-elles demandé au Père Hormière et à la Mère Saint-Pascal de fonder une nouvelle congrégation. Cette congrégation a vu le jour le 11 décembre 1852.
Et donc c'est les sœurs de l'ange gardien.
Elle est devenue sœur de l'ange gardien. Alors, au désir des fondateurs pour que les sœurs soient vraiment des anges pour les enfants qui leur étaient confiés.
Voilà, en tout cas, quand on voit comme vous avez l'air attentive et délicieuse, on se dit que voilà, vous êtes fidèle à cette vocation. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot donc du développement de cette congrégation qui est donc de chez nous, hein, puisqu'elle est partie donc de l'Aude. Comment s'est développée cette congrégation au XIXe siècle, puisque si j'ai bien remarqué, vous avez un petit accent, donc elle s'est développée particulièrement à l'étranger, et ce, dès le début. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Sœur Jacqueline ?
Bien, voilà, oui, la congrégation est née en France, mais ayant quand même eu assez rapidement de nombreuses candidates, elle s'est agrandie. Et le fondateur, qui avait un esprit vraiment missionnaire, avait quand même travaillé avec les prêtres des missions étrangères à Lyon et des rencontres un peu à droite et à gauche pour voir comment on pouvait travailler ensemble et envoyer des sœurs en mission. Et voilà que le projet se réalise et il envoie en 1864 un groupe de 4 sœurs pour partir au Dahomey.
Dahomey, c'est en Afrique.
Voilà, l'actuelle Côte d'Ivoire.
Bénin.
L'actuel Bénin,
excusez-moi, oui.
Je vous en prie.
Voilà, et bon, et finalement, ils arrivent au sud de l'Espagne pour partir en Afrique. Et le bateau qui devait les amener a chaviré. Et donc, elles ont été là pendant un temps, et puis finalement, les sœurs se sont dit, bon, il n'y a plus de sortie possible pour l'Afrique. Le fondateur lui a dit, bon, ben, revenez en France. Si ce n'est pas possible de partir, c'est que les voies du Seigneur ne sont pas encore ouvertes. Et puis, bon, en Espagne, tout de suite, les évêques se sont rendus compte que des sœurs, ils en avaient besoin aussi là-bas. Ils se sont dit, non, mais vous restez ici en Espagne, puisque si vous veniez pour aller travailler avec les petits noirs, c'était des besoins. Ici aussi, on a des besoins. Donc, ils sont restés et ils ont ouvert la première communauté en Espagne, à Cadix.
Voilà, alors est-ce que vous pouvez après nous parler du développement de la communauté, puis nous dire aujourd'hui combien vous êtes de sœurs en France et dans le monde, et dans quel pays vous êtes particulièrement présente ? Sœur Marie du Carmel.
Du temps des fondateurs, la congrégation vivait uniquement entre la France et l'Espagne, malgré le rêve du Père Hormière qui disait « L'ange gardien ira-t-il dans d'autres pays ?» Donc il a commencé à s'ouvrir à l'Espagne. L'Espagne a donné beaucoup de vocations. La congrégation a pris un essor extraordinaire, mais de leur temps, ce n'est resté que dans ces deux pays. Et la congrégation a pu réaliser le rêve des fondateurs à partir des années 1950, où elle s'est ouverte à l'Amérique latine, et même maintenant jusqu'à l'Amérique du Nord également, plusieurs pays aussi en Afrique et également en Asie.
D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien de sœurs dans le monde ? Donc, combien y a-t-il de religieuses ?
Nous sommes
des sœurs de l'ange
gardien ? Pardon. Nous sommes une congrégation, je dirais, relativement petite, mais enfin, quand même 450 sœurs. Et ça nous fait 13 nationalités et nous nous trouvons dans 16 pays.
Voilà, en tout cas aujourd'hui, donc on est ce matin en direct donc de Montauban, dans la maison mère en fait de cette congrégation, donc la congrégation de l'ange gardien, pardon, des sœurs de l'ange gardien. On va faire une première pause musicale pour partir plus à la découverte après du père Louis-Antoine Hormière, entre autres sur quelques points saillants de sa spiritualité qui peuvent encore aujourd'hui nous inspirer. Voilà, les éducateurs peut-être qui nous écoutent et puis les parents. Et puis à la fin de cette émission, on parlera de la dévotion à l'ange gardien. Quand même, c'est la moindre des choses avec un nom pareil, les sœurs de l'ange gardien.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, donc à la découverte du père Louis-Antoine Hormière, donc futur bienheureux, qui va donc être béatifié le 22 avril prochain à Oviedo. Le père Louis-Antoine Hormière, qui est français, qui est donc né à Quillan, donc dans l'Aude. Et aujourd'hui, nous sommes donc en direct de la maison mère de de la congrégation religieuse, en fait, qu'il a fondée au 19e siècle, qui s'appelle donc les Sœurs de l'Ange Gardien, dans la magnifique bibliothèque derrière nous, avec même des bustes, les reliques du saint à côté. Bref, j'allais dire c'est un vrai musée, mais non, c'est un musée vivant avec donc autour du plateau qui ont la gentillesse de nous recevoir donc sœur Marie du Carmel et sœur Jacqueline, sœur Marie du Carmel qui est supérieure donc de cette maison des sœurs de l'Ange Gardien et avec sœur Jacqueline qui est évidemment également sœur de l'Ange Gardien. Il y a dans la vie de tout saint, chacun étant on va dire un diamant un peu particulier, des reflets particuliers, et dans sa spiritualité, il y a quelques points saillants. Le premier point de sa spiritualité sur lequel vous vouliez insister, on va faire ça avec vous, sœur Jacqueline, c'est donc qui était très présent à l'esprit de cet homme, une spiritualité de l'incarnation, alors qui se nourrissait en fait d'une école spirituelle qui existait à l'époque, qui s'appelle l'école française. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'était l'école française ?
Voilà, l'école française qui débutera avec les grands fondateurs de cette spiritualité, le père Bérulle, Ollier, Vincent de Paul, etc. Et notre fondateur, le père Hormière, donc était un prêtre séculier, donc imprégné de cette spiritualité. Et nous, les sœurs de l'ange gardien, filles du père Hormière et de mère Saint-Pascal, nous sommes les héritières aussi de cette spiritualité. Et cette spiritualité, on pourrait la définir simplement en un mot, c'est la spiritualité de l'incarnation.
Et qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque, cette spiritualité de l'incarnation, en fait, c'est...
Voilà, être le ferment qui fait le levain de la masse dans ce monde sécularisé. Et je pense que notre fondateur voulait, pour la congrégation qu'il venait de créer, que nous soyons au milieu de ce monde comme l'incarnation de cette divinité du Christ pour humaniser notre humanité,
Voilà, si, si. Alors donc, vous pourriez donc citer quelques exemples. Il y avait quelques exemples donc dans la vie de ce père Louis-Antoine Lormière qui disent un petit peu justement cette attention à être fidèle à cette école française de spiritualité et à cette spiritualité de l'incarnation. Est-ce que vous pouvez nous redire, par exemple, ces attentions particulières qu'il avait au début qui disent cette importance?
Voilà, tout au début de la congrégation, le père Lormière qui avait quand même les soucis de ce monde des emparer un petit peu, il envoyait un peu partout trois sœurs pour dans le petit village, pour les écoles.
Dans les campagnes donc.
Pour la campagne, voilà. Mais, de petits villages surtout, mais il n'oubliait jamais d'envoyer avec ses sœurs une sœur exclusivement pour visiter les personnes seules, les personnes les malades, les personnes âgées. Il voulait comme une présence des sœurs de l'ange gardien au milieu de cette société qui était pas très
christianisée ou pas très
isolée.
Assez isolée, oui. Il y avait autre chose, c'est que donc dans cette présence, en fait, il était aussi particulièrement attentif, en fait, à la vie concrète des gens et entre autres aux mamans ou aux pères, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter
parce que les soucis, c'était aussi non seulement les écoles, mais c'était donc, comme je viens de le dire, une sœur exclusivement pour visiter les malades, les personnes seules, et pour aider aussi souvent les familles, les jeunes foyers qui ne savaient pas trop se débrouiller pour les aider, comment tenir une maison, comment élever les enfants, comment tenir, je sais pas si...
Comment travailler au champ aussi, vous me disiez, dans ce sens?
Ça a été un peu plus tard, comment travailler au champ, puisque dans l'époque même, où le ministère de l'Agriculture n'existe pas encore, notre fondateur avait le souci de s'occuper des jeunes garçons pour ne pas qu'ils partent dans les banlieues des grandes villes, pour les aider à bien tenir une propriété. Et il avait créé une école agricole dans le domaine...
Au début du 19e siècle.
Voilà, que nous avons...
Ici, en fait, hein, c'est ça. Là, il y avait des champs en fait, autour, voilà. Il avait créé une école agricole.
Il y avait 17 hectares, on a été expropriés de 10 hectares, donc il y avait de l'espace pour pouvoir faire travailler des élèves de l'école agricole.
Alors,
avec les frères de l'ange gardien, dont on n'a pas parlé, parce que ce qu'ils voulaient, c'était aussi avoir des frères et des pères de l'ange gardien. Et on a eu les deux, on a eu des pères de l'ange gardien, des frères de l'ange gardien, mais...
Mais il ne reste que des sœurs.
Et il ne reste que des sœurs.
On est content qu'il reste des sœurs quand même. Et donc cette attention particulière à une spiritualité de l'incarnation, en fait, qui existe encore aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, par exemple en Afrique ou en Amérique latine, la manière dont ça se vit encore?
Voilà, depuis longtemps, bien sûr, dans beaucoup de pays, c'est le gouvernement qui ont pris en main l'éducation, l'enseignement. Alors qu'à l'époque de la fondation, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, puisque nous, notre but, c'est surtout l'éducation et non pas tellement l'instruction en complément, mais nous avons, avec les directives d'après le Concile, avec l'enseignement, fait en sorte comment orienter notre charisme vers les besoins de la société d'aujourd'hui.
Donc comment ça se traduit en Afrique,
voilà,
en Amérique latine,
par exemple?
Par exemple,
bon, c'est la promotion de la femme, aider aussi le foyer, aider les mamans avec à s'occuper de leurs enfants dans les dispensaires, les catéchèses des adultes, former des éducateurs pour qu'eux-mêmes prennent le relais. En Amérique latine, beaucoup, c'était travailler avec les paysans, les campesinos, pour pouvoir les aider à devenir, à ne pas être opprimés par les grandes...
C'est-à-dire comment ça se passe ou quelle forme ça prend, en fait?
Former de genre de coopératives entre eux pour pouvoir vendre entre eux unis et pour ne pas qu'ils soient expoliés par les grands propriétaires. Beaucoup de sœurs, de petites communautés qui s'implantaient un peu partout, pareil pour aider les gens à s'en sortir eux-mêmes, sans être exploités par les grandes propriétés.
Voilà, donc ça fait une première grande caractéristique donc, de cette spiritualité, hein, à l'école, spiritualité de l'école française, spiritualité de l'incarnation propre donc à cette époque et qui se traduit encore aujourd'hui. L'autre grand aspect peut-être de cette spiritualité, c'est évidemment sa grande dimension éducative, puisque je disais, c'est vous qui m'avez dit ça en préparant l'émission, c'est une sorte de Don Bosco un peu à la française. Il y a en fait dans l'intention même, il faut le rappeler en fait, de ce père fondateur, des sœurs de l'ange gardien, une réelle intention missionnaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'instruire ou d'éduquer, mais de faire des disciples du Christ. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, sœur Marie du Carmel ?
Le père Hormière nous a laissé un beau chapitre sur l'esprit de la maison qui touche surtout la partie éducative des enfants. Il nous dit, destiné à élever la jeunesse, à former des membres vivants de ce corps mystique dont le chef est couronné de gloire dans les cieux, nous devons être pénétrés de l'importance de notre mission et méditer sérieusement les moyens de la bien remplir. Former de vrais disciples de Jésus-Christ, c'est notre but principal, notre unique but. L'Évangile, le livre saint, voilà, dans ce sens, notre règle, notre guide. L'entreprise est grande, puisque ce n'est pas un temple que nous avons à préparer au Seigneur, nous avons à former des enfants de Dieu.
Alors, donc ça, là, vous citez donc ce qui fait partie en fait des écrits fondateurs. Il y a aussi deux phrases en fait dans votre congrégation auxquelles vous êtes particulièrement attentif. Il y en a d'ailleurs une qui est derrière nous. Je vais la dire. Donc, former de vrais disciples de Jésus-Christ, c'est notre but principal, notre unique but. L'Évangile, les livres saints, voilà notre règle, notre guide. C'est d'ailleurs pas ce que vous venez de citer. Excusez-moi. En tout cas, donc ça, c'est la première phrase. Il y a une deuxième vous m'avez cité en préparant l'émission. Chacun a reçu dans l'esprit donc une attention particulière qui dit cette dimension missionnaire.
Justement, il s'inspire beaucoup des écrits de saint Paul et une des phrases qu'il nous a laissées comme un héritage également dans ce sens de la mission, c'est « Chacun a reçu de l'Esprit un don particulier pour le mettre au service du bien commun. » Et il nous en a donné l'exemple.
Voilà, donc dès le début, donc un charisme d'éducation, enfin une spiritualité de l'éducation avec donc une forte dimension missionnaire. Il s'agit de faire des disciples du Christ, chacun rayonnant avec la grâce qui lui est propre. Le père Louis Hormière, en fait, était assez exigeant, semble-t-il, avec les sœurs. Enfin, vous dites qu'il y a eu des frères, il y a eu des pères, mais il y a surtout eu des sœurs, leur demandant quelque part, et c'est le sens du nom de votre congrégation, d'être des anges gardiens. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette exigence qu'il avait à l'égard des éducateurs, et peut-être nous citer l'un ou l'autre passage que vous avez de ce livre fondateur.
Voilà, au niveau du nom que nous avons dans la congrégation Sœurs de l'Ange Gardien, ils insistaient beaucoup, l'un et l'autre, le père Hormière et la mère Saint-Pascal, sur le fait d'être des anges visibles auprès des enfants qui nous sont confiés. Être de fait. Non pas simplement porter le nom. Et le nom, c'est pour nous, les sœurs de l'ange gardien, tout un programme de vie missionnaire, d'apostolat, au niveau des tâches apostoliques, car comme les anges que l'Écriture nous montre en mission de salut, nous devons être prontes à accomplir la volonté de Dieu, toujours en attitude de service, disponible pour l'annonce du royaume.
Voilà, alors donc cette exigence, il y a une vraie exigence, d'ailleurs vous m'aviez cité un ou deux autres passages dans ce livre, peut-être que vous voulez en citer un autre, non, qui dit cette exigence à l'égard des éducateurs, ou si vous ne retrouvez pas, est-ce que vous pouvez nous donner... est-ce que vous pouvez nous donner des... Vous retrouvez le passage, alors allez-y, dites-nous à quoi ressemblait ce passage.
L'enseignement est un véritable apostolat, un second sacerdoce. Or, nul ne s'attribue à soi-même cet honneur, mais il faut y être appelé de Dieu.
Alors, cette exigence qu'il avait, en tout cas, à l'égard donc de cet appel, cette mission éducative, en fait, c'était un homme qui, on peut imaginer, s'il est bien heureux, comme souvent les saints, en fait, qui était d'une assez grande radicalité. Est-ce que vous avez des exemples dans sa vie qui disent quelque part la radicalité qui était la sienne ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques fioretti qui disent la radicalité qui était la sienne, sœur Jacqueline ?
Oui, par exemple, c'était un homme qui osait se lancer pourvu que, voilà, de venir au secours des gens. À l'époque où il n'était pas encore fondateur, mais il était que simple prêtre, il avait demandé d'aller au secours d'un prêtre lors d'une épidémie. pour venir en aide.
Épidémie de quoi? De choléra?
Le choléra, bon, oui. Il y a eu des épidémies en quelques temps qui se sont succédées, le choléra et la peste. Et lui, il était monté dans le village de montagne pour aider le prêtre avec un docteur pour aider à soigner le malade et tout. Le prêtre du village qu'il était venu pour le seconder est mort. De l'épidémie. Les docteurs aussi. Donc, dans le village, tout le monde avait pensé que le père Ormière était mort aussi, puisque c'était vraiment très, très.
Mal parti.
Et même dans le village, on avait célébré, on avait prié.
Donc, à Quillan, on avait célébré.
À Quillan même, on avait prié, puisqu'on pensait qu'on n'avait pas de nouvelles, et donc il était mort et enterré sur place, puisqu'il ne fallait pas déplacer.
On avait commencé à prier, c'est-à-dire voilà. À célébrer ses obsèques, c'est ça?
Voilà, et sans corps, bien sûr. Et puis finalement, lui, il s'en est sauvé, et il est rentré au village, à la surprise de tout le monde, puisqu'on le croyait mort depuis longtemps.
D'accord, et vous dites donc à l'époque c'est
un truc qui a... Et à ce moment-là, bon, l'évêque a eu connaissance du geste qu'il avait eu et il a voulu le décorer de...
Lui donner une espèce de quoi, de médaille du mérite ou je ne sais pas si c'était équivalente.
Oui, de chanoine.
Oui, pardon, lui donner le titre de chanoine, vous dites.
Le chandail des chanoines.
D'accord.
Mais qu'il a refusé et parce qu'il a dit qu'il avait fait ça tout simplement, parce qu'il avait senti l'appel à faire ses services. Et du coup, l'évêque, dans une lettre qu'il lui a écrite en le remerciant, il l'a nommé martyr de la charité de son vivant.
Alors peut-être pour finir cette deuxième pause, et quelque chose qui illustre aussi la radicalité de cet homme et peut-être sa sainteté, c'est une lettre que vous m'avez montrée quand je suis arrivé, sœur Marie du Carmel, qui est une lettre que vous avez retrouvée dans sa correspondance, une lettre du curé d'Ars. Donc le curé d'Ars, pour rappel, c'est donc ce prêtre français qui est saint, qui est même le patron en fait, c'est des prêtres français. Qui est presque donc qui est de la même époque hein, que le père Louis-Antoine Ormière, et donc qui lui écrit cette lettre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la teneur de cette correspondance?
Nous savions qu'il y avait une très bonne relation entre le père Ormière et le saint curé d'Ars, mais voilà qu'un jour, dans un livre de sa bibliothèque, ici, dans ce bureau, par hasard, nous avons trouvé une lettre écrite de la main du curé d'Ars adressée au père Ormière à l'occasion de sa fête le 21 juin, le jour de la Saint-Louis de Gonzague. Alors il lui dit...
Alors vous n'avez pas cité toute l'intégralité de la lettre, peut-être vous voulez juste nous citer un
début,
passage. Oui.
Voilà. Quand je pense à cette grande charité que vous avez dû souffrir d'être presque du nombre de vos enfants, la joie de mon cœur déborde de tous côtés, ce qui me donne une haute idée de votre humilité, moi qui suis si misérable comme vous le saviez. Je m'unis à tous vos enfants pour vous souhaiter une bonne fête, vous souhaiter une longue vie, mais un amour aussi grand que celui de Gonzague et un zèle aussi étendu que celui de Saint-Paul.
Voilà, c'est pas rien quand même de recevoir une lettre du curé d'Ars. Hein. C'est une belle et une grande relique qui parle évidemment donc de la radicalité de cet homme et à l'image de ce qu'on vient de décrire, donc de son souci d'être vrai, au plus proche, donc d'être dans cette spiritualité de l'incarnation et de l'éducation. On va faire une deuxième pause musicale. Je rappelle donc que cette émission Vivante Église a lieu ce matin depuis Montauban, en direct de la maison mère des Sœurs de l'Ange Gardien, congrégation religieuse donc fondée par le père Louis-Antoine Ormière, qui sera donc béatifié le 22 avril prochain à Oviedo, en Espagne.
Gloria, gloria, gloria.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin donc en direct de Montauban, donc sur le père Louis-Antoine Ormière. Si vous nous prenez en cours de route, je rappelle que le père Louis-Antoine Ormière est un futur bienheureux français, né à Quillan donc dans l'Aude en 1809 et mort en 1890, qui a été le fondateur donc d'une congrégation pardon qui s'appelle donc les Sœurs de l'Ange Gardien, dont la maison mère est située à Montauban. Et ce matin, je suis dans la bibliothèque du fondateur, donc avec Sœur Marie du Carmel, supérieure de cette maison, et Sœur Jacqueline, toutes les deux Sœurs de l'Ange Gardien. Alors avec un nom pareil, je me disais qu'évidemment on pouvait pas finir l'émission sans parler des anges. Les anges, on le sait, sont populaires. Quand on regarde un petit peu les ventes de livres autour des questions de spiritualité, eh bien, on voit qu'en fait, il y en a beaucoup qui se vendent autour des anges. Alors après, parfois, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Souhaite-t-il que les anges parlent en fait aujourd'hui au grand public. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Sœur Jacqueline, peut-être comme présentation ou explication de ce que sont les anges, que dit la tradition et quelle est la foi de l'Église sur les anges, qui ils sont?
Comme nous l'avons dit, notre fondateur a voulu nous donner le nom des Sœurs de l'Ange Gardien. Pourquoi ce nom? Comme on a dit aussi, il était imprégné de ses écrits bibliques. Je pense que s'il a voulu nous donner ce nom, c'est qu'ils avaient vraiment des raisons. Le nom des Sœurs de l'Ange Gardien, pour nous, c'est...
Mais qui ils sont les anges peut-être? Si vous deviez expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas en fait, c'est quoi les anges en fait?
Bon, disons que les anges, nous on les traduit par envoyés de Dieu. Et les envoyés de Dieu, ben, après sous quelle forme ils sont, c'est ce qui nous intéresse le moins. Nous savons que dans la Bible, nous avons beaucoup de textes où on nous parle de cette présence de Dieu, par exemple dans le livre des Torah.
Donc c'est des êtres, en tout cas, c'est des êtres spirituels en fait, qui sont donc des créatures de Dieu qu'on ne voit pas, mais qui, pour dans la foi de l'Église, ont une vraie réalité.
C'est bien. Qu'on le voit, puisque dans le livre de Tobie...
Alors prenez l'exemple du livre de Tobie, qui est donc un livre de l'Ancien Testament.
Tobie, voilà, la personne qui accompagne Tobie pour aller chercher femme ailleurs.
Alors attendez, racontez l'histoire, parce que tout le monde n'est pas familier. C'est donc un homme donc, qui s'appelle Tobie et qui va... qui quitte son pays pour essayer d'aller trouver une femme, on va dire.
Voilà, et puis le père l'a confié à une personne pour l'accompagner sur le chemin, pour ne pas envoyer son fils tout seul. Et puis voilà que finalement, la personne qui l'a accompagné, après les péripéties, mais bon, les personnes peuvent lire ce passage de la Bible, ça
oui,
sera
tout,
plus intéressant
oui,
de le dire.
Oui, mais tout le monde ne le connaît pas. Donc en tout cas, Tobie arrive dans un village et donc il rencontre sa future épouse, en fait, qui lui est présentée d'une certaine manière par cet homme qui l'accompagne.
Oui, c'est très du raccourci là.
Bah oui, bon. Mais il faut bien résumer. Donc,
Il retourne un chemin et puis finalement, une fois sa mission accomplie, la famille veut remercier l'accompagnateur et l'accompagnateur a disparu.
Voilà, et on apprend dans l'écriture que c'était
l'ange Raphaël, qui avait accompagné Tobie lors de ce voyage.
Voilà, donc ça c'est un premier passage dans les écritures qui parle en fait de ces anges. Et vous aviez, Sœur Marie du Carmel, un ou deux autres exemples dans l'Ancien Testament où il est fait mention des anges.
Par exemple, du temps d'Abraham aussi, trois anges rejoignent du côté de Mamré et lui annoncent la bonne nouvelle que sa femme Sarah aurait un enfant l'année suivante. Ensuite, également pour Abraham, alors qu'il se prépare à immoler son fils.
Et donc Isaac, c'est un autre passage
fils,
donc,
Isaac,
où Dieu lui demande mystérieusement donc, de sacrifier son fils unique.
Oui, et mais l'ange du Seigneur retient son bras et il lui dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je te comblerai de bénédictions. »
Voilà, vous nous citez aussi dans, comment dire, avec Jacob aussi, il y a des passages dans l'Ancien, un passage dans l'Ancien Testament, donc il y a un autre, on va dire,
alors voilà pour
une
Jacob,
grande figure de l'Ancien Testament.
Oui, voilà pour Jacob, il est en route vers Haran, et en un certain lieu, il s'arrête pour y passer la nuit, il a un songe, voilà qu'une échelle est dressée sur la terre, et qu'au son sommet atteint le ciel, et des anges de Dieu, ils montent et descendent. Dieu se manifeste à lui et lui dit, Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Cette échelle manifeste le lien qui existe entre le ciel et la terre.
Voilà, après il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament, non, c'est ça aussi, où il est fait mention des anges. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être deux, trois passages qui attestent que ce n'est pas une vieille histoire?
L'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel,
voilà, l'annonciation,
pour lui dire qu'elle sera la mère du Sauveur, la mère de Jésus. Et Marie lui dit oui, elle conçoit son fils à Bethléem, le jour de Noël.
Voilà, donc autre arcan.
Et voilà aussi beaucoup d'anges qui se manifestent pour chanter la gloire de Dieu.
Lors de la nativité, cette fois.
De la nativité également, oui.
Et puis, peut-être pour finir, évidemment, ça c'est lors de la Semaine Sainte, au moment de l'agonie à Gethsémani, il est fait mention aussi donc d'un ange qui vient réconforter le Christ, non ?
Lors de l'agonie de Jésus à Gethsémani, justement, où Jésus sent très fort ce qu'il allait vivre et qu'il sent un poids sur lui, un découragement, un ange s'approche de lui pour le réconforter. Et également, les anges sont très présents pour annoncer la résurrection de Jésus aux femmes qui s'empressaient d'aller porter des parfums au tombeau. Ne craignez point, il n'est pas ici car il est ressuscité comme il avait dit.
Donc ça, c'est des exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour, on va dire, nous exhorter à avoir foi dans l'existence de ces êtres spirituels. Mais vous aviez aussi des exemples dans la vie du Père Antoine qui disent en fait cette dévotion particulière qu'il avait aux anges. Et il y a comme, enfin, on appelle ça dans le jargon, des fioretti, c'est-à-dire des exemples dans sa vie. Et puis même dans l'histoire de la congrégation, vous allez nous raconter, qui disent un petit peu cette présence mystérieuse. La première chose, c'est donc quelque chose qui est arrivé donc au Père Louis-Antoine Ormière. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Sœur Jacqueline, cet événement ?
Mais il s'est trouvé que, comme tous les débuts, les fondateurs ont beaucoup à souffrir quand l'œuvre de Dieu contredit le plan du malin. Bon, mais il y a toujours des difficultés. Le père Ormière s'est trouvé dans sa communauté ici à Montauban et il a été malmené par une sœur, bien sûr, qui lui avait dit qu'il n'était pas digne d'être le supérieur, qu'il y avait d'autres personnes qui étaient plus dignes que lui. Mais lui, dans son humilité, il baisse la tête et puis bon, il s'en va découragé. Il quitte la maison pour partir, pour être logé à Montauban.
C'est-à-dire, non pas forcément pour quitter la congrégation, mais dans un moment de découragement.
Pour partir, voilà, un moment de découragement. Il avait besoin de s'éloigner. Il partait pour passer la nuit ailleurs. Et puis en chemin, quelqu'un est venu le trouver qui lui a dit, mais... où est-ce que vous allez? Toute la communauté est en train de s'affoler parce qu'on ne vous trouve pas et qu'ils ont besoin de vous et qu'on ne sait pas comment faire. Bon, et alors lui, il réfléchit, il se retourne et puis bon, il dit, ah bon, si on me cherche là-bas, je ne peux pas les laisser seuls, je reviens. Et puis il se retourne pour dire au monsieur de merci de me rappeler ça, mais il ne voit plus personne sur la route qui était isolée. Il n'y avait plus personne, alors conclusion pour
et
lui.
Et c'est la conclusion à lui, c'était donc ?
C'était son ange qui l'avait averti qu'il fallait encore plus d'humilité et revenir au lieu pour être présent à sa communauté.
Voilà, Sœur Marie du Carmel, vous aviez un autre exemple aussi qui est arrivé lors d'un voyage, si je ne me trompe pas, donc non pas pour vous, mais au début de la congrégation, lors d'un voyage en carriole, c'est ça, donc il y a eu un accident.
Voilà, oui, nos chers... De ces temps-là, quelques sœurs étaient en voyage dans une diligence, la mère fondatrice et des autres sœurs. Et voilà qu'à un moment donné, les chevaux se sont cabrés, ils sont partis comme des fous, et ils sont partis dans le ravin, la carriole, la diligence avec. Et puis, il y avait des personnes qui se sont trouvées là par hasard, les croyants déjà mortes. Elle a dit, c'est pas possible qu'elle puisse s'en sortir. Et puis, tout d'un coup, il les voit remonter vers le chemin dans un état de santé parfait. Et elles ont dit, mais il y a un monsieur qui nous a sauvés. Où est-il passé? Ils ne l'ont plus jamais revu. Donc, elles ont bien pensé que c'était un ange qui les avait sortis du péril.
Alors, preuve en est que c'est pas forcément des histoires du passé. Vous aviez aussi deux autres Fioretti à nous citer, plus contemporains. Et le premier, c'est arrivé donc à des sœurs de votre congrégation, donc des sœurs de l'Ange Gardien, au Venezuela, vous me disiez, en fait, à la fin du siècle dernier, donc dans les années 80-90.
Oui, je dirais que lorsque nous partons en voyage, nous invoquons toujours, c'est très l'habitude dans notre façon de vivre, d'invoquer l'ange pour qu'il nous accompagne le long du chemin. Et des sœurs sont parties en voiture vers un lieu inconnu. Elles étaient complètement perdues, elles ne savaient plus où aller, à qui s'adresser. Et voilà que tout d'un coup, elles ont vu un enfant sur le chemin et ils lui ont demandé où se trouvaient les lieux. L'enfant leur a dit « Si vous voulez, je vous accompagne ». Et la sœur qui était à côté du chauffeur l'a pris sur ses genoux parce qu'il n'y avait pas d'autre place dans la voiture. Et tout d'un coup, en arrivant au lieu indiqué, il leur dit « Voilà, c'est ici ». Et l'enfant a disparu des genoux de la sœur. Ils sont restés tout étonnés. Et puis la sœur qui le portait,
il a disparu tout d'un coup, en fait, c'est ça?
Voilà, il a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et puis la sœur qui le portait sur ses genoux a dit, en effet, il était bien léger, je ne le sente pas.
Et il vous est arrivé à vous pour finir aussi une autre fois, voilà, quelque chose
oui.
d'assez...
Alors je venais avec une autre sœur de Quillan, en des chevaux, ça remonte à quelque temps. Et j'ai voulu, ça remonte, oui, à plusieurs années. À un moment donné, j'ai doublé une voiture. J'avais tout l'espace de devant libre pour pouvoir doubler. Et voilà que tout d'un coup, en face de moi, une autre voiture décroche. Et on allait vraiment se télescoper. Et comme chaque fois que nous prenons la route, nous prions l'ange gardien, et peut-être à ce moment-là aussi, je l'ai invoqué. Aussitôt, je me suis retrouvée, je ne sais pas comment, à ma place, sur la droite, devant la voiture que j'ai doublée.
Vous n'avez pas compris ce qui s'était passé, en fait.
Je n'ai pas compris, mais ça m'est toujours resté comme une grâce de la présence de l'ange sur notre chemin.
Peut-être pour finir, sœur Jacqueline ou sœur Marie du Carmel, vous choisissez. Est-ce que vous pourriez nous dire aux auditeurs qui seraient sensibles à ce que vous venez de dire, comment est-ce qu'on peut essayer de développer justement sa spiritualité ou une relation avec son ange gardien? Est-ce qu'il y a, je sais pas, ça serait quoi le béaba? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre?
Moi, si je devais donner un conseil, parce que ça nous arrive encore aujourd'hui d'avoir des personnes qui nous parlent des anges et qui s'appellent ceci, cela, et il y a quelquefois des tendances à faire de l'ésotérisme. Ce n'est plus l'ange.
Voilà, c'est pour ça que je précisais au début que les anges sont populaires, mais parfois.
Voilà, il faut rester quand même près des Écritures. Là, on sait que c'est. Pour ceux qui ont la foi, bien sûr, il n'y a pas de doute. On reste près des Écritures, on sait ce que ça représente, que l'ange de Dieu, l'envoyé de Dieu. Mais pour les autres, bon, faire attention, être un peu éclairé. Il ne faut pas faire de l'angélisme, il ne faut pas faire de l'ésotérisme avec les anges gardiens.
Mais comment on s'y prend? C'est-à-dire que tout simplement, on prend l'habitude de le prier, de lui parler.
Ce que nous faisons, nous, c'est normal, nous, sœurs de l'ange gardien, on le prie tous les jours, matin, midi et soir, individuellement, en communauté, on le prie, bon, parce que pour nous, c'est une présence de Dieu.
Si je suis auditeur et j'ai envie de passer à l'acte, en fait, je prends l'habitude de le prier, naturellement, il y a une confiance qui va grandir.
Parce que Dieu a mis à côté de vous un protecteur, donc comment il est, sous quelle forme il est, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que Dieu est présent à vous, par quel intermédiaire on lui fait confiance.
Voilà, puisqu'il faut rappeler donc que chacun à sa naissance, c'est en tout cas la foi de l'Église, a un ange gardien, tout comme les paroisses, tout comme les diocèses et tout comme même les pays. Pour finir, peut-être vous vouliez finir, sœur Jacqueline, par une prière à l'ange gardien, et puis après, on vous quittera.
D'accord, bon, vous savez que dans l'Église, on prie l'ange au moment de l'Eucharistie, les anges sont invoqués, les anges et les archanges, et donc c'est quand même la foi de l'Église, effectivement, comme on vient de le dire. Voilà, une prière qui nous est propre à nous, en plus de ce que nous faisons en Église.
Et que vous dites donc tous les matins, c'est ça?
Voilà. Alors, prière à l'ange gardien. Ange de Dieu, gardien de mon âme, compagnon de ma route, guide invisible mais sûr, garde-moi quand je m'égare, guéris-moi quand le mal me blesse, Dans le doute, soutiens ma foi. Dans les ténèbres, sois ma lumière. Dans la peine, sois mon soutien. Ange de Dieu, gardien de mon âme, garde-moi de tout mal. Protège-moi du danger. Soutiens-moi dans la lutte. Veille sur moi jour et nuit, et jusqu'au jour où je te verrai dans la gloire, et avec ceux que j'aime, je pourrai glorifier le Père, le Fils et l'Esprit pour les siècles sans fin. Amen.
Eh bien, merci beaucoup, Sœur Jacqueline et Sœur Marie du Carmel, de nous avoir reçus ce matin donc à Montauban pour cette émission donc sur le Père Louis-Antoine Ormière. Je rappelle donc que vous êtes les sœurs de l'ange gardien. Voilà d'où cette prière finale. Et je rappelle surtout que le Père Louis-Antoine Ormière va donc être béatifié le 22 avril prochain à Oviedo, en Espagne. Merci beaucoup, cette émission. Allez-y, pardon.
Je voulais rappeler aussi que dans toutes nos communautés du monde entier, puisque nous sommes présentes dans 4 continents, dans toutes nos communautés, nous faisons une messe d'action, une célébration d'action de grâce après la béatification. Et que nous, ici, pour Montauban...
Oui, vous avez raison, c'est le 20 mai prochain,
c'est le 20
en présence de Mgr Ginoux qui viendra.
En présence de Mgr Ginoux et de tous les amis qui veulent nous entourer, nous sommes tous invités à rendre grâce au Seigneur parce que dans l'Église, il y aura la reconnaissance des nouveaux saints. Pour nous, il n'y avait pas de doute, il était saint, mais bon, là, c'est l'Église qui le reconnaît et c'est une grâce supplémentaire.
Voilà, donc le 20 mai prochain, rendez-vous ici à la Maison Mère à Montauban en présence de Mgr Bernard Ginoux, bien connu de nos auditeurs, et donc évêque du diocèse de Montauban. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Vous la retrouvez en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.